les fondements non utilitaristes de la science sociale, ou peut-être des sciences sociales, mais enfin, c'est pas un débat central. Dans ces fondements, je crois qu'il y a les valeurs universelles. Je ne peux pas concevoir que nous ne nous interrogions pas sur les valeurs universelles, sur l'universalisme, et j'ai envie de dire contre le relativisme, mais aussi, c'est une chose qui me frappe de plus en plus, contre l'ethnocentrisme, et y compris ce que j'appellerais l'ethnocentrisme des dominants. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, si on veut exister à l'échelle internationale, il faut écrire et parler en anglais, mais qu'on s'aperçoit que la littérature dans nos disciplines, la littérature de langue anglaise, est d'un ethnocentrisme incroyable. J'en cite un tout petit exemple. Dans la revue Sociaux, on a publié dans le dernier numéro un article excellent d'un chercheur israélien, Nathan Schneider, sur Hannah Arendt à Paris. Vraiment un très beau texte. Mais les deux lecteurs à qui on avait demandé ce qu'ils pensaient de ce texte en anglais nous ont dit, écoutez, c'est très très bien, il n'y a pas de problème, il faut améliorer ceci, cela. Mais quand même, il aurait pu citer des auteurs qui se sont exprimés en français sur Hannah Arendt à Paris. Il y a des choses qui ont été écrites et qui sont excellentes. Et on lui a demandé, il a accepté toutes les corrections qu'on lui demandait d'envisager, sauf celle-là. Et il a dit, moi je ne parle pas français, mais il a... Bon. Donc du coup, ça m'a vraiment beaucoup agacé, parce que je me suis dit, mais dans quel monde vivons-nous si quelqu'un peut, dans une revue sérieuse, quelqu'un de qualité, peut se permettre de dire, il suffit de lire l'anglais pour parler, et de connaître la littérature en langue anglaise pour parler d'un dossier comme celui-là. Et j'ai croisé cette question à plusieurs reprises, donc je le signale, parce que ça fait partie des enjeux de cette affaire-là. J'ai croisé cette affaire, ce genre de problème à plusieurs reprises, et notamment à propos des débats sur le multiculturalisme. C'est des débats dans lesquels je suis pas le seul ici, j'ai souvent été engagé. Et je suis frappé de voir que la littérature qui parle soi-disant mondialement, globalement, universellement du multiculturalisme ne s'intéresse presque exclusivement qu'à des pays où les gens, sinon sont anglophones, du moins parlent parfaitement anglais, genre Pays-Bas ou Scandinavie, et ignorent complètement tout ce qui peut se passer dans bien des parties du monde, y compris d'ailleurs, paradoxalement, en Inde, qui est pourtant un pays où on parle anglais, mais qui apparemment rentre pas dans cette orbite anglo-saxonne, en tout cas dans ces débats. Donc les débats sur le multiculturalisme, c'est le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Et puis vous allez en Amérique latine et vous découvrez qu'il y a des débats d'une très grande richesse, d'une très grande vitalité, en langue espagnole. Bon, voilà. Et donc, si vous voulez, un plaidoyer pour l'universalisme, pour nous, c'est aussi ça. C'est savoir que l'universalisme n'en est pas forcément un chez ceux qui prétendent le porter. Alors, premièrement, je pense qu'il faut faire un bilan des critiques qui ont pu être faites aux valeurs universelles, telles qu'on les conçoit généralement chez nous, si je puis dire, depuis l'Occident ou depuis nos sociétés. Ici même, il y a 2 ou 3 ans, j'avais été invité, j'ai vu que les actes sont publiés, à un colloque autour de François Julien, qui justement nous rappelle dans un de ses livres que les valeurs universelles, c'est en gros les Grecs et la raison, je vais vite, les Latins et le droit, et Saint Paul et l'égalité dans l'au-delà. Bon. Et donc, si on considère que c'est ça l'universalisme, il faut voir qu'il y a eu des critiques nombreuses qui ont été faites dans le passé et des nouvelles critiques depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ou des critiques qui se sont, disons, relancées. Il y a d'abord eu, évidemment, les critiques, j'ai envie de dire, réactionnaires ou conservatrices. Les valeurs universelles, ça a quelque chose à voir avec les Lumières, par conséquent, c'est une menace pour l'ordre, une menace pour les traditions, etc. Bon, laissons ça de côté. Il y a ensuite eu, évidemment, toutes les critiques de type relativiste, je ne rentre pas dans ces débats, mais qui sont parfois extrêmement extrêmement fortes. Mais il y a deux autres types de critiques qui méritent qu'on s'y arrête. Je parle des critiques pour l'instant les plus classiques. Il y a premièrement Marx. Marx qui dénonce ce qu'il appelle ici ou là l'universalisme abstrait. Il ne critique pas les valeurs universelles, mais il dit elles sont abstraites. Et le problème, c'est non pas de critiquer, mais de transformer le monde. Or, dit-il, on met en avant des abstractions qui sont des promesses abstraites. J'en donne un exemple contemporain parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. quand on entend, par exemple en ce moment, nous dire que pour régler les problèmes de terrorisme, d'islamisme, enfin toutes ces horreurs, eh bien il faut expliquer aux enfants dans les écoles les grandes valeurs que sont la République, la citoyenneté, la laïcité. On est exactement dans cet universalisme abstrait. C'est-à-dire que dire aux enfants des écoles vive la République, vive la citoyenneté, liberté, égalité, fraternité, si c'est pas pour eux au départ, ça prend une allure incantatoire et ça se termine par les flics, la répression et les deux jeunes dont on vient de reparler qui sont morts dans un transformateur électrique. Ce que je veux dire par là, c'est que les valeurs universelles, si on les met en avant sans qu'elles soient appliquées et concrètes, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et pervers. Donc voilà une critique. Et puis enfin, une dernière critique, et beaucoup plus gauchiste, si je peux dire, c'est ce qui va de l'école de Francfort à Baumann, pour le dire comme ça, c'est-à-dire, on met en avant les valeurs universelles, on ne voit pas qu'elles nous mènent à la catastrophe, ou à la barbarie, le côté dégât du progrès, si vous voulez aussi. Bon, donc je développe pas tout ça, mais ça c'est pour moi les critiques les plus classiques. Et je retiens de toutes ces critiques, et surtout celles de l'universalisme abstrait, un problème pour nous aujourd'hui dans des sociétés comme les nôtres, qui est le problème suivant, c'est que nous sommes tous capables spontanément de critiquer le communautarisme, c'est-à-dire le relativisme, le communautarisme, les dangers qui vont avec, la soumission des individus au groupe, etc. Ça, on n'a pas de difficulté. Mais je crois qu'on oublie trop souvent dans les débats, surtout actuels, que l'universalisme, lui aussi, peut être critiquable, surtout quand il est abstrait, comme je viens de le dire. Qu'autrement dit, nous n'avons, me semble-t-il, dans les grands débats même du moment, si je prends la France, la laïcité, le foulard, toutes ces affaires qui reviennent sans arrêt, les statistiques ethniques, enfin, on pourrait prendre un certain nombre de grands débats, nous avons en fait à nous affronter non pas à un problème, le communautarisme, mais à deux, le communautarisme et l'universalisme abstrait. Alors voilà, ça c'était les critiques les plus classiques. Et puis, même si ça existait avant, bien sûr, je crois qu'il faut aussi considérer tout ce qui est monté en force depuis les années 60, à mon sens, et qui ont critiqué l'universalisme du dedans de nos sociétés ou du dehors. Et là, ce sont des critiques qui sont liées très directement à la vie sociale, ou à la vie, disons, ou à l'action collective. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'un côté des critiques internes à des sociétés, ça a commencé aux États-Unis en particulier, pour dire ce que vous appelez valeurs universelles, c'est en réalité la domination des blancs sur les noirs, je le dis crûment, et la domination des hommes sur les femmes. Donc, et vous avez eu donc des mouvements de contestation, où c'est la destruction des Indiens, enfin ce genre de choses. Donc regardez comment le western s'est transformé, si vous voulez, ou a disparu avec un passage avec les western spaghetti. Mais on est passé, si vous voulez, d'une certaine image des Noirs, des Indiens, etc., à d'autres images. Et donc, dans ces années-là, il me semble que les valeurs universelles ont été critiquées pour ce qu'elles avaient d'accompagnement à des formes de domination, de destruction, d'exclusion. Et c'était plutôt à l'intérieur de nos sociétés. Et puis, surtout à partir de la décolonisation, ça existait avant déjà, bien sûr, mais surtout dans le contexte qui a suivi, l'idée que les valeurs universelles, c'est l'hégémonie occidentale, ou l'hégémonie américaine, si vous voulez, sur les modes de pensée dans le monde entier. Et donc la critique est devenue une critique nettement plus directement politique. Est-ce qu'on peut encore, effectivement, parce que ces critiques ont leur force, elles sont pas à côté de la plaque, hein, est-ce qu'on peut encore se réclamer des valeurs universelles dans un monde où, à l'intérieur de nos sociétés comme à l'extérieur, toutes sortes d'acteurs nous rappellent que ces valeurs ont accompagné aussi toutes sortes de formes de destruction, de domination, d'hégémonie, etc. C'est ça le problème, si vous voulez, qui m'intéresse. Et donc, si on ne le fait pas, je pense qu'on court à la catastrophe. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que nos disciplines sont capables de proposer des idées, des pistes pour affronter ces enjeux? Alors, je vais aller un peu vite, mais je vous dirais que j'ai trouvé, dans ce que j'ai pu lire, j'ai trouvé 5 familles de réponses. Et c'est ça que je voudrais vous présenter, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Première famille de réponses, elle commence, à mon sens, avec Merleau-Ponty, et elle va jusqu'à François Julien, que j'évoquais il y a un instant. François Julien, c'est beaucoup d'entre vous le connaissez certainement, c'est un philosophe qui circule, c'est pas de la comparaison, qui circule entre la pensée chinoise, philosophique chinoise, et la pensée philosophique occidentale. Il circule, bon. Et donc, alors, en gros, qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve chez Merleau-Ponty, puis chez François Julien, l'idée qu'il faut arrêter de regarder les choses par le haut et de penser, comme dit, je recherche l'expression exacte de Merleau-Ponty, qu'il faut en finir avec, dit-il, ce qu'il appelle un universel de surplomb et passer à ce qu'il appelle un universel latéral. Et il s'appuie, pour dire ce que je suis en train de vous dire, il s'appuie sur l'ethnologie. Alors, on est dans les années d'après-guerre, c'est pas du tout l'ethnologie d'aujourd'hui, bien entendu, et quand on dit ethnologie, c'est-à-dire qu'on pense à des mondes lointains, exotiques, c'est pas Marc Auger dans le métro à Paris, hein, c'est vraiment les sociétés très lointaines. Et ce que dit Merleau-Ponty, c'est l'ethnologie, le voyage, qu'on le fasse soi-même ou qu'on y accède par la lecture, le voyage ethnologique, c'est, je le cite, une incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Et c'est là où on va trouver les valeurs universelles. Autrement dit, il n'y a pas de valeurs universelles posées à l'avance, on les construit par cette expérience d'une altérité lointaine, mais que l'on découvre et qui nous découvre. Alors, François Julien dit des choses un peu comparables. Alors, il a un vocabulaire un peu plus compliqué, donc je cite juste une phrase de lui, mais il distingue ce qu'il appelle l'universalisable et l'universalisant. Et il nous dit qu'il faut être du bon côté, je le lis. L'universalisable est ce qui prétend à la qualité d'universalité en tant qu'énoncé de vérité. L'universalisant, quant à lui, est indemne de ce problème de légitimité. Il est ce qui fait surgir, par défaut et de façon opératoire, de l'universel. Il ne prétend pas, il fait. Et on mesure sa valeur à la puissance et à l'intensité de cet effet. Disons ainsi, et j'aime bien cette précision, c'est une image concrète de ce qu'il a en tête, disons ainsi que les droits de l'homme sont un universalisant fort et efficace. Donc un peu comme Merleau-Ponty, pas d'universel qui vient d'en haut et qui s'applique comme ça à des situations, mais quelque chose qui se construit, qui déclenche des processus. Alors ça, c'est une première remarque, et je dis au passage que ça nous intéresse beaucoup, nous autres chercheurs en sciences sociales, parce que cela veut dire que l'expérience concrète est importante, et si on est sociologue, l'expérience du terrain, si on est historien, peut-être l'expérience des archives, mais en tout cas, l'expérience concrète. Et quand j'écrivais ces choses-là, au moment où je terminais, je suis tombé sur le livre que publiait Olivier Roy d'entretien avec Jean-Louis Schlegel, que vous avez peut-être lu. Olivier Roy, c'est ce magnifique chercheur sur l'islam, un des meilleurs. Et je vous le recommande, ce livre, par rapport à cette idée. Si vous voulez comprendre comment on acquiert les meilleures connaissances qui soient sur l'Afghanistan, le Pakistan, l'islam, etc., eh ben, lisez Olivier Roy, vous verrez que Boris Baladek, son sac à dos, des mois dans ces sociétés. Bon, le terrain. J'ai plus que 5 minutes pour vous présenter les 4 autres pistes. Alors, je vais passer la vitesse supérieure. Voilà. Deuxième piste qu'il me semble qu'on puisse suivre, c'est une piste, j'ai envie de dire, Goody Sen, Jacques Goody, Amartya Sen. C'est-à-dire l'idée que ailleurs que chez nous, des gens ont pu inventer, penser en termes universels. Amartya Sen, c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que sur la démocratie et sur la justice en particulier, il nous ouvre vraiment des horizons nouveaux. Donc c'est l'idée que si on veut réenchanter l'universel, il faut aller chercher à l'échelle de la planète et dans le temps des modes de pensée. Bon, je ne développe pas, mais démocratie et justice qui peuvent être trouvées ailleurs. Troisième piste, j'en parlais tout à l'heure avec vous, la troisième piste, c'est Eisenstadt, les modernités multiples, multiple modernities. Alors, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que nous dit Eisenstadt? Je le caricature. Il nous dit, il n'y a pas une modernité, il n'y a pas une one best way, il y a plusieurs modernités. Et si on veut comprendre les modernités, il faut comprendre les multiple modernities. Eisenstadt sauve l'idée de modernité en la diversifiant, en quelque sorte. Bon, ça a été très discuté. Parmi les réponses qui ont été faites à Eisenstadt, celles qui me semblent parmi les plus prometteuses, c'est celles qui disent, la modernité, elle est une. Par contre, les chemins qui mènent à la modernité, les voies de la modernisation, si vous voulez, sont multiples. Voilà le genre de discussion qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, je trouve que ça nous permet de dire, de ne pas abandonner la modernité, si je peux dire, mais d'accepter sa diversification dans les chemins qui y conduisent. Quatrième piste, comme vous le savez, Ulrich Beck vient de disparaître. J'ai été très intéressé par ce qu'il disait, non pas du cosmopolitisme, mais de la cosmopolitisation du monde. Alors, l'idée, elle est en gros la suivante, c'est que aujourd'hui, il y a un phénomène de cosmopolitisation du monde, c'est-à-dire que chacun de nous est obligé de penser son expérience, son existence, ses problèmes, en ayant une vision globale, une vision mondiale. Donc c'est toutes ces thèses qu'il développe depuis très longtemps sur le risque et sur la critique de ce qu'il appelle le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire le fait de penser les problèmes dans le seul cadre de l'État-nation. Et donc, la cosmopolisation, c'est pas le cosmopolitisme, même si ça entretient évidemment des liens étroits avec lui, c'est l'idée qu'on est de plus en plus obligé de penser à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, avec les risques. Bon. Et comme vous le savez, le grand succès d'Ulrich Beck est venu du fait qu'il a publié son livre sur le risque dans le contexte de Tchernobyl, juste avant. Donc, je pense que c'est très intéressant de regarder ce type de pensée, parce que ça nous aide aussi, je pense, à réenchanter les valeurs universelles. Et enfin, dernière piste, vous voyez, je ne suis pas sectaire du tout, Balibar. Étienne Balibar, qui dit des choses qui sont pas forcément éloignées, d'ailleurs, de ce que dit Merleau-Ponty, mais qui dit, si nous voulons nous intéresser à l'universalisme, il faut en finir avec l'universalisme d'expansion ou d'extension, celui qui a accompagné l'expansion de l'Europe, la colonisation et toutes sortes d'horreurs. Bon, il faut en finir et s'intéresser à ce qu'il peut y avoir dans les valeurs universelles d'appel à la libération. Le mot libération, émancipation, c'est-à-dire l'universalisme, ça ne peut pas être une injonction à se couler dans le moule de valeurs qui ont été dessinées depuis l'Occident. L'universalisme, c'est l'idée qu'il existe des valeurs qui accompagnent des actions d'émancipation, de demande de droits, des demandes de démocratie. Et donc, voilà, si vous voulez, les cinq pistes que j'ai repérées dans les débats ou les propositions récentes. Et je me dis que tout ça, c'est quand même pas négligeable. Je veux dire, si on circule entre Merleau-Ponty, François Julien, Balibar, Amartya Sen, Jacques Goudy, etc., Eisenstadt, bon, on a quand même un faisceau de modes de pensée qui nous donne la possibilité de ne pas désespérer. Et donc, c'est pour moi le socle à partir duquel j'ai essayé ensuite de construire d'autres idées. Voilà.